partant de du titre « Rénovation des pratiques financières » et par rapport au débat, parce que moi je suis arrivé un peu plus tôt ce matin, c'est vrai qu'il y a peut-être un hiatus entre la partie académique. C'est que je pense que l'académique, même si ici on est critique par rapport à ça, mais pense encore que ce soit les assets ou même les sociétés, on travaille énormément sur des modèles mathématiques. Je pense que Jean-Philippe sera quand même assez d'accord avec moi que la partie vraiment dans une analyse, enfin, dans ce qu'on fait quand on est analyste, la partie vraiment chiffrée, elle est quand même, de mon point de vue, relativement faible. Et on va plus s'intéresser à rencontrer les entreprises. Donc on est déjà et travailler sur la stratégie des entreprises, et c'est là-dessus qu'on va vraiment faire notre diagnostic. Et encore une fois, n'oubliez pas que notre objectif en tant que gérant ou analyste, c'est d'essayer de prévoir. C'est pas tellement de savoir ce qui s'est passé. Donc même si les entreprises, par exemple, publient aussi des rapports annuels aujourd'hui de 600 à 700 pages, là encore, moi j'avoue, je ne les lis pas. Je ne sais pas si, ou en tout cas, on va pas lire 600 pages fois toutes les sociétés qu'on va lire. Donc il y a quand même un petit problème. Alors une fois qu'on a dit ça, d'où je parle aussi, donc moi j'ai 30, un peu plus, comme l'a rappelé Jacques, vieux compagnon, effectivement j'ai 32 ans de métier avec à peu près la moitié, 18 ans en analyse financière et en gérant. Et là, depuis un an, je suis plutôt remonté je suis chef économiste maintenant d'une structure qui pilote une société qui est très impliquée dans l'ISR suite à une fusion qui s'appelle Senso IS, donc on gère, on a maintenant une gestion totalement ISR. Alors dans cette pratique, justement, pour refaire la jonction avec qu'est-ce qui peut changer, effectivement, dans cette extra-financière, qui est probablement la problématique qui doit nous intéresser, c'est clair que les critères d'ESG vont devenir de plus en plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une demande. Moi, je fais pas mal de commercial en parallèle. Et j'aurais pas dit ça, d'ailleurs, il y a 2 ans. Donc, moi, j'arrive chez vous, en gros, par la petite porte. Donc, je vais probablement peut-être dire des bêtises, mais j'ai un ressenti donc qui est peut-être un peu à la fois extérieur et en même temps très impliqué, y compris sur des problématiques très, très personnelles. Ça m'a toujours apporté. Après, j'ai quelques questions. Je finirai par des questions. Quand on regarde la demande, alors on a fait des échanges en oral, j'ai peut-être pas les bons chiffres. J'ai simplement pris Bloomberg hier et j'ai regardé sur Bloomberg l'ensemble des fonds et puis ceux qui étaient en critères ESG pour savoir effectivement déjà on s'adresse à quoi. Alors j'y peux rien, c'est vraiment des données, les données telles qu'ils ressortent. Sur Bloomberg, qui a en analyse de fonds 133 000 fonds, ce qui est quand même pas mal au niveau international, je ne sais pas combien il y en a en réalité, mais c'est vraiment en classe unique, hein, on ne compte pas les multipares des fonds. Savez-vous combien il y en a qui sont caractérisés en ESG ? Ah, déjà, je serais venu pour quelque chose. Il y en a moins de 1%, puisqu'il y en a 1033. Encore une fois, il peut y avoir, c'est la nomenclature ESG, c'est pas la mienne. Donc c'est assez faible, on va dire, même si je pense que c'est en progrès. Là-dedans, je regardais d'ailleurs où étaient localisés ces fonds, et c'est assez intéressant. Qui est le premier ? Non. Non.
Suisse, Genève.
Ça, c'est pas dans mon temps de parole. Non, c'est. Mais ça, pareil, hein, c'est peut-être très bizarre. C'est l'Australie qui en a 190 sur les 1100. Ensuite, effectivement, on trouve les États-Unis, on trouve le Luxembourg à 120. Là, les États-Unis à 118. Et nous en avons 111. 111. Encore une fois, répertorié. Hein, donc, c'est pas moi, c'est Bloomberg. Et la Norvège est à 100. Avec d'ailleurs, quand j'ai regardé après les tailles. La Norvège a des très gros. Alors en termes de taille, alors j'avoue que je les ai. Alors je peux pas vous donner la réponse. J'ai les plus gros sont donnés autour des 20 milliards.
Après c'est enfin.
Ouais, mais je n'ai pas celui-là.
Non, mais je crois que il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments, parce que la définition que vous donnez, c'est vraiment la définition étroite. Si on prend la définition des PRI, on passe de 1 à 50%. Donc entre le 1 et le 50%, la réalité aujourd'hui, elle est plutôt de l'ordre au niveau européen de 12 à 15. Alors un élément d'explication et ma maison en est exactement l'exemple, c'est que nous, dans l'expertise que je représente de 4 milliards d'euros, il y en a 200 millions, c'est-à-dire 5% qui sont dans les fonds ouverts. Et 95% de mon job, c'est de gérer des mandats institutionnels pour des instituts qui ne sont pas dans Bloomberg. Et je ne fais que représenter le marché. Et donc, quand vous faites votre 1% par rapport à la réalité, et on pourrait faire un tour de table d'autres acteurs français ou hollandais, tout ça, on retrouverait sur le chiffre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que entre le 1 et le 1% et le 50% extrêmement ambitieux, je pense qu'un ordre de grandeur de 12 à 15. Alors, ça reste. Après, je vous redonne votre temps parce que là, voilà. Mais c'est important, c'est que ce 12%, c'est quoi? Il est minoritaire. Mais moi, en 2000, il y a 19 ans, j'ai fait la première étude de marché. Le chiffre, c'était 0,1%. Donc, ça fait fois 100 et quelques. Donc, on est quand même dans une dynamique intéressante. On est passé en gros de 0,1%. À 12-15, voilà à peu près pour le paysage.
Oui, et puis après, je pense qu'on a toujours... ce n'est pas l'objet de cette table ronde, mais la définition de l'ESG, je pense que, qui va encore évoluer et qui va probablement être précisée aussi suite aux travaux de la Commission européenne, tout dépend de ça. Enfin, très clairement...
C'est important. Enfin, je voulais signaler ça parce que justement, on est dans un univers qui est pas très bien catégorisé. Ouais, donc moi, je trouvais que c'était intéressant de vous, encore une fois, de dire de quoi on parle. Après, ce qui est donc de toute façon, on est d'accord, ça reste, on va dire, quand même assez faible. En plus, en allocation, et c'est plutôt des fonds qui sont sur la partie action, puisque ça représentait à peu près 62% qui sont sur la partie action. Et le reste en plutôt sur des monétaires obligataires et des fonds diversifiés. Après, donc c'est clair que, là je parle de mon expérience aussi, c'est clair qu'il y a une demande réelle de la part d'abord des institutionnels, et maintenant on voit très bien, moi je travaille un peu plus dans notre clientèle, sur une clientèle de conseillers de gestion en patrimoine, donc gens qui étaient assez éloignés de ce genre de raisonnement. Ce raisonnement, enfin cette demande, elle est réelle maintenant. Après, qu'est-ce qu'on y met dedans? Et c'est là où il faudra... peut-être clarifier les choses, ça me paraît beaucoup plus complexe. Un mot sur la performance aussi, et Jean-François l'a dit tout à l'heure, donc dans les petites analyses que j'ai essayé de voir sur ces échantillons, c'est clair qu'il n'y a pas de... Et je terminerai par ça, il n'y a pas de plus ou de moins de performance. À la limite, je crois que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se battre, parce que ce n'est pas ça qu'on va vendre. À la limite, est-ce qu'il ne faut pas accepter l'idée qu'on puisse avoir des... qu'on puisse, alors ça par contre il faut que le client l'accepte, mais être en moins performance, sachant que derrière on va avoir des critères globaux, si on est en économie de carbone, économiquement parlant c'est plus intéressant pour la planète. Après il ne faut quand même pas rêver, expliquer ça à votre client qu'il faudra peut-être qu'il perde un peu d'argent en étant un peu plus responsable, je ne suis pas convaincu qu'on en soit quand même là. Ce qui paraît aussi, je refais le point sur les entreprises, c'est vrai quand on voit maintenant les publications des entreprises, et je terminerai par ça sur ces fameux critères, et j'arrêterai. J'ai eu hier, certains l'ont peut-être vu, le communiqué de Razéo, qui fait aussi le point entre les deux côtés. C'est quand même assez intéressant, puisque là, ils ont fait une page essentiellement là-dessus, sur leurs chiffres en matière de RSE. Et là, ils communiquent donc sur les impacts. Donc, je les cite. Ils estiment qu'ils ont généré donc 3 milliards d'euros et de retombées économiques et soutenu plus de 89 000 emplois. Et en ayant aussi fait des actions en matière d'économie de dépenses de 250 millions d'euros de dépenses en eau et énergie. Et en accident de travail, etc. Donc ils arrivent à les mesurer. Et j'en terminerai par là. J'ai un petit problème quand même sur... Après, je regardais les fonds. J'essaie de dire comment je peux vendre... comment je peux faire passer le fait qu'il y ait demain plutôt 10% de fonds ou 30 ou 40%. Ou même que la totalité des fonds soit ESG. Moi, quand j'ai regardé quelques fonds, je suis quand même assez surpris... Je me dis, franchement, y compris les nôtres d'ailleurs, mais c'est pas pendant qu'il les gère, je me dis, franchement, il n'y a aucune différence, quoi. D'où d'ailleurs, j'ai pris, c'est un fonds norvégien, ses principales lignes, c'est Google, Amazon, Apple. Ok, si je prends l'hélice d'un autre fonds, on va avoir ça. Et expliquez-moi qui sont très RSE ces gens-là, c'est un autre débat, je peux, mettre la frontière plus loin.
Oui. Là, précisément, il me semble qu'on parle tout ce qui fait la différence entre un fonds ESG et un fonds d'impact. C'est aussi l'objet de la discussion, à savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les outils qui sont à la disposition des gérants.
Je termine juste par là. Après, il y a quand même un problème qu'on connaît bien, je pense, quand on est dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on est d'accord que pour ces critères qualitatifs, encore plus compliqués que ce que nous, on a l'habitude de faire depuis 30 ans, c'est-à-dire travailler sur l'analyse financière, sur les chiffres, etc. Bon, ça, c'est facile. Mais qui va... Enfin, en gros, qui va faire cette analyse? Les analystes ne peuvent, enfin, on peut pas le faire, les gérants ne peuvent pas le faire. Qui va payer? Parce que ça veut dire une recherche qui va être encore plus, si on veut le faire correctement, c'est une recherche encore plus compliquée, qui est coûteuse. Et aujourd'hui, avec MiFID, plus personne ne veut payer. C'est le gros résultat qu'on a connu en 2018, puisque les sociétés de... Non, mais c'est vrai. Les sociétés de... On est en train de tuer le métier d'analyste. Donc, je ne vois pas comment, et c'est une vraie problématique, comment ce qui devrait justifier le fait d'avoir des équipes extrêmement pointues qui vont qualifier avec des critères, etc., qui vont permettre de passer, effectivement, de ESG à impact, parce que ça, c'est intéressant. Mais comment on va le faire? Et comment, moi qui vais vouloir
trouver
des fonds, la recherche académique, mais qui va la payer aussi? Et je pense que c'est ça la vraie question.
C'est les messages pour... J'aimerais bien